Chapitre 2. Mes premières impressions se confirmèrent et je continuai à végéter tranquillement dans mon trou sans décider si M. Dubarral me plaisait. Mon impression fut plus claire et fort différente quand il me présenta un de ses aides principaux, son futur associé ou quelque chose d'approchant. Grand garçon de 32 ans, dont la bonne figure de poupon et les manières aisées me furent sympathiques. Je le vis pour la première fois à un déjeuner auquel plusieurs amis ou collègues de M. Dubarral étaient invités. Du bout de la table où je me tenais coite, j'observais tous ces chiffres habillés en homme. Sans être un prince de la finance, M. Dubarral avait une haute situation. Il était très apprécié et, plein de déférence pour ses opinions, les chiffres qui l'entouraient s'inclinaient généralement à ses moindres mots comme de vils courtisans qui courbent les chines devant un simple simulacre de souverain. Je m'amusais vraiment, tout en songeant que je resterais éternellement droite devant un banquier, tandis qu'un vandigue me ferait plonger jusqu'à terre. Mais ces gens-là, en apparence du moins, ne pensaient point à vandigue. Le déjeuner avait été présidé avec M. Dubarral par un vieil ami, mon parent jugeant évidemment que, en me plaçant devant lui, il me donnerait trop d'importance. Peut-être avait-il raison, mais mon âme, un peu froissée, s'envolait vers un autre temps. Après le déjeuner, M. Balladier, placé loin de moi pendant les agapes, s'approcha de ma personne. J'avais remarqué qu'il me regardait souvent avec un intérêt dont ses premiers mots me donnèrent l'explication. « Êtes-vous parente, mademoiselle, de M. Vidal Armand, l'artiste qui a laissé des œuvres si distinguées ?»« Je suis sa fille, » répondis-je en rougissant de plaisir. « Vraiment, permettez-moi de vous adresser tous mes compliments, mademoiselle. J'ai de M. Vidal Armand un portrait de mon père. » C'est une belle toile et d'une ressemblance saisissante. Peignez-vous aussi, mademoiselle? Je dessine seulement, assez bien, surtout des caricatures. Caricaturiste, qui s'en douterait en vous voyant? Pourquoi pas? Que voyez-vous d'étonnant dans cette disposition? Votre air si jeune ne s'accorde pas avec l'idée d'un esprit satirique. Ne vous y fiez pas. Répondis-je avec une gravité qui le fit sourire. Décidément, j'aimais ces bons yeux qui me regardaient avec tant d'intérêt. Vos occupations ici doivent vous paraître sévères, mademoiselle. Elles ne sont pas pénibles, mais si bêtes. Très mécaniques, en effet. Au milieu de tant de choses intéressantes, vous n'avez qu'un côté uniquement matériel. Au milieu de tant de choses intéressantes, répétai-je en cherchant autour de moi où ces choses pouvaient bien se cacher. Lesquelles? Où les voyez-vous dans cette maison? Comment? Et les affaires, et ces questions économiques qui font mouvoir le monde, surtout notre monde actuel? J'ouvrais de grands yeux. Vous ne saisissez pas l'intérêt de ces questions, souvent brûlantes, je le vois, dit-il en souriant. Vaguement, ou même nullement. Alors, vous avez certainement trouvé bien ennuyeuse notre conversation pendant le déjeuner? Oh oui, je n'ai rien compris du tout, si ce n'est que vous étiez des fripons. À cette déclaration inattendue, il éclata de rire. Eh bien, voilà une jolie conclusion. Je ne fais pas d'application personnelle, je parle en général d'après les opinions que vous émettiez sur certains banquiers. Des unités, des exceptions. À l'heure présente, il est difficile d'être banquier malhonnête. Nous avons des associés et une organisation inexistante autrefois. Je ne savais pas que M. Dubarral eut des associés. Il n'en a pas, en effet, et se retirera sans en avoir, je crois. Vous êtes chez lui depuis plusieurs années? 2 ans seulement, mais j'ai toujours étudié les questions de finances et passé par une filière avant qu'un ami m'eût fait entrer dans cette maison. Tout jeune, vous étiez dans cet affreux métier? Quel singulier préjugé, mademoiselle! Veuillez me pardonner, j'ai vécu dans une atmosphère si différente. Oui, je comprends, mais ici, vous êtes et serez toujours au milieu d'honnêtes gens. Monsieur Dubarral, probe jusqu'à la rigidité, n'admettrait pas chez lui un seul personnage douteux. Rigidité, répétai-je en réfléchissant, le mot est un peu synonyme d'exagération. Il ne peut pas y avoir de la rigidité dans l'honnêteté. Elle est et doit être droite comme un piquet, dis-je en esquissant le geste de planter un pieu en terre. De nouveau, il se mit à rire joyeusement. Vous avez parfaitement raison, droite comme un piquet, ou mieux, comme l'esprit frais et sans détour d'une jeune fille. La réponse et son compliment me parurent un peu osés de la part d'un homme que je ne connaissais pas. Mais, mon Dieu, j'étais si seule, et la sympathie, quand je la rencontre sur mon chemin, m'est si précieuse que j'entendis ne point me formaliser. « Nous nous verrons souvent, mademoiselle, me dit-il en se levant. Je viens tous les jours au bureau. Je n'avais pas encore eu l'honneur de vous être présentée parce que j'étais absent. » En homme bien élevé, il attendit que je lui tendisse la main, ce que je fis de grand cœur. Depuis cette première conversation, quand M. Baladier avait l'occasion de me rencontrer en dehors de mes fonctions, ou de me voir assise dans un salon, écoutant de toutes mes oreilles, observant d'un œil vif, quoi qu'on pût penser de mes yeux de taupe, il ne manquait pas de s'asseoir près de moi, principalement lorsque, pendant le repas, on avait conté des faits qui attaquaient l'honneur de l'humanité. « Croyez-vous que ce soit vrai ?» lui disais-je. « Moi, je n'en crois rien. Vous paraissez tous si méfiants. » « Mais, mademoiselle, il faut observer le monde tel qu'il est, non comme on voudrait le voir. » « Je n'aime pas la méfiance, dis-je avec une grimace expressive. Elle enlaidit tout. Sans être méfiant, on peut, on doit même avoir une vue exercée. » « Vous transformez le défaut en qualité, dis-je en riant. Lorsque je manifestais ma confiance dans les gens et dans la vie, je ne savais pas pourquoi ils me regardaient avec tant de plaisir, et je remarquais que chaque expression de mon inexpérience plaisait également à M. Dubarral, mais je ne croyais pas que ce fût dans le même sens, et parfois je me creusais la tête pour deviner le mot de l'énigme. J'aurais cru qu'une intelligence plus ouverte, plus avertie, plus développée, eût mieux obtenu les bonnes grâces de M. Dubarral. Pas du tout, et bien qu'il me sourit avec indulgence quand j'avançais des idées à ses yeux parfaitement saugrenus, et qu'il me répéta quelquefois « Vous avez besoin de comprendre la vie, Rita, d'acquérir de l'expérience ?» Il ajoutait certainement en lui-même « Je suis content qu'elle ne sache rien, ou à peu près. » Un jour, j'en connus la raison. Un de mes premiers soins, dans mes moments de liberté, fut d'aller voir mes compagnes d'enfance mariées à Paris. De ce côté, j'espérais trouver de ces amitiés qui persistent à travers les années. Sur les quatre compagnes de jadis, trois furent polies, la quatrième, aimable et affectueuse. Il est vrai que Noël Féval n'était pas encore mariée. Elle habitait une propriété située à 30 minutes de Paris en automobile. Son père, administrateur d'une grande compagnie, était fort riche. Je pris modestement le train pour aller la voir et fus reçu à bras ouverts. Enfin une affection, car Noël, qui m'aimait en pension, elle avait passé plusieurs années scolaires au Sacré-Cœur de Nantes, conservait de moi, me disait-elle, un souvenir délicieux. Et pourquoi, depuis 4 ans, avons-nous cessé de nous écrire? Pourquoi est-on absurde, cher Noël? Que faites-vous à Paris, chérie? Je vous vois en deuil. Vous avez perdu vos cousins? Tout, dis-je, tout perdu. Je suis seule. Oh, pauvre chère! Elle m'embrassa tendrement. Mais alors? Je lui expliquai en quelques mots que, ayant seulement pour vivre une maison et une rente de rien du tout, j'avais accepté d'être copiste chez un parent, M. Dubarral, banquier. M. Dubarral, le banquier, notre voisin. Comment votre voisin? Il habite Paris. Oui, mais il possède une propriété presque mitoyenne de la nôtre. Tenez, à travers les arbres, vous apercevez le toit de sa maison. M. Dubarral ne m'a jamais parlé de sa propriété. En dehors du travail qu'il me donne, je le vois assez peu, du reste. Vous prenez vos repas ensemble, cependant? Oui, mais il déjeune et dîne souvent hors de chez lui. Vous le connaissez beaucoup? Beaucoup. Mon père en fait grand cas, comme tout le monde d'ailleurs. Il a une excellente situation parmi les meilleurs financiers. ma mère et moi le trouvons fort bien. » Et sa fille ? Une enfant encore, mais aussi aimable de caractère que jolie. Vous l'avez vue ? Oui, oui, elle est en effet très très jolie. À côté d'elle, je suis presque un laideron. » Vous êtes judicieuse en disant « presque », répliqua Noël en riant. « N'est-ce pas curieux de revoir la petite Rita chez notre voisin et on peut dire ami ? Il est bon pour vous, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondis-je simplement. Je ne pouvais pas m'étendre sur cette bonté, car je me demandais souvent si la bienveillance de mon parent provenait de sa bonté ou d'un intérêt secret. Or, malgré la sottise, sous couleur de naïveté dont ont paré mes réflexions, je penchais pour l'intérêt secret. « Je l'ai toujours vu charitable, » continua Noël. « Quand je le quête, il me donne sans lésiner. » « Mais c'est amusant de donner, et pourquoi lésiner quand on est riche ?»« C'est vous qui êtes amusante, chère petite fleur des champs, » dit-elle en riant. « Oh, » répliquai-je d'un ton blessé, « j'ai 20 ans et je ne suis pas aussi sotte que j'en ai l'air. »« L'air d'une sotte, avec vos jolis yeux intelligents, mais si candide. » À quoi pensez-vous ? Mais vous avez vécu loin du monde depuis votre sortie de pension, je le crois du moins. Vous vous trompez. Mes cousins m'ont conduite dans le monde à Nantes pendant 2 hivers. Ils m'ont fait voyager, j'ai lu beaucoup, je ne suis pas si novice que vous croyez. Enfin, vous n'avez que 20 ans. Et vous, 22. Grande différence. Très grande quand les vies sont très différentes. « C'est entendu, je suis une innocente, dis-je, agacée, mais je vous en remontrerai sur plus un point. Si vous saviez comme la nature est instructive, que de lectures intéressantes dans les œillets des falaises ou le gazouillis d'un ruisseau, dans les souvenirs et l'harmonie d'une chaumière comme la mienne, toute remplie de l'empreinte d'un véritable artiste. » Mon enthousiasme subit amusa mon ami. Je suis convaincue qu'un ruisseau donne une grande expérience des hommes, répondit-elle avec un grand sérieux. Moquez-vous et aimez-moi. Je ne me moque pas, petit artiste et poète, et je sens que je vais vous aimer bien plus encore qu'autrefois. Là-dessus, nous nous serrâmes la main avec effusion. Chérie, dans cette nouvelle existence, votre amour-propre ne souffre pas. Du reste, il aurait grand tort de souffrir. Pourquoi souffrirais-je ? Dis-je étonné. C'est honorable de gagner sa vie, même petitement. Je crois bien que c'est honorable. Et puis, vous êtes parente de M. Dubarral, votre place réelle est ainsi tout indiquée et vous lui rendez service. Vous dites cela pour me faire plaisir, Noël, mais notre parenté était un peu oubliée quand je suis arrivée. Je n'ai pas beaucoup d'amour-propre, je suis bien traitée et ne me plains de rien. » Elle m'embrassa à grands bras. « Naturellement, déjà en pension, vous étiez toujours contente, vous saviez découvrir un côté aimable ou amusant dans le plus ennuyeux des devoirs. Je me rappelle bien et je crois que vous n'avez pas changé. Enfin, le plus clair de tout ceci, c'est que je vous ai retrouvée et que nous nous verrons souvent au printemps. » En mai, M. Dubarral se transporte ici avec armes et bagages. Et sa banque ? Il va chaque matin à Paris et revient le soir. Il me laissera peut-être à Paris pour m'avoir sous la main en arrivant, dis-je tristement. Non, non, et puis je lui dirai que nous sommes liés. Dites-le lui vous-même. Le soir, M. Dubarral dînait chez lui. Nous étions seuls par hasard. Et bien que, en cette occurrence, il eût l'habitude désobligeante, pendant les repas, de lire son journal ou des lettres, il me demanda « Qu'avez-vous fait de votre liberté aujourd'hui ?»« Je suis allé voir une amie d'enfance. »« Qui s'appelle ?»« Noël Féval. »« Bah, vous connaissez bien mes amis Féval ?»« Noël, amie d'enfance et de pension. »« C'est curieux, elle est plaisante, votre amie. » J'ai vu l'enfant se transformer en femme des plus agréables. En effet, je me rappelle maintenant que l'air de la province convenant à la santé de Noël et les Féval habitant à leur Paris, on l'avait mise en pension à Nantes, près d'une tante religieuse, je crois. C'est cela, nous nous sommes revus aujourd'hui avec un plaisir. Elle m'a dit que vous aviez une propriété dans la vallée. Quel bonheur si vous m'emmenez près de Noël à la campagne !» La chose me paraît assez difficile, fit-il distraitement. Et il se remit à sa lecture. Mais je comptais sur Noël, qui devint dans ma vie un clair rayon de soleil. Lorsqu'elle me savait libre, elle venait me chercher et nous courions ensemble les musées dont je ne me lassais jamais. Mes connaissances et mes intuitions sur l'art l'intéressaient tout en l'étonnant. « Je vous ferai connaître M. Saint-Audon, » me dit-elle. « Qui est M. Saint-Audon ? » ?»« Un critique d'art très fin, il vous plaira. C'est un ami d'enfance, quoiqu'il ait 8 ans de plus que moi. Nous nous appelons même par notre petit nom. » Avec Noël, je pus causer sans arrière-pensée, rire librement, rappeler mes souvenirs de pension, parler de ma vie affectueuse avec mes cousins, en un mot, m'appuyer sur son amitié. Sa mère, aimable femme, me prit en affection et je ne me sentais jamais importune dans cette maison hospitalière. « Que pensez-vous, dis-je un jour à Noël, de M. Baladier ? Vous le connaissez autant que M. Dubarral ? Oui, c'est même mon père qui l'a fait entrer chez votre parent. Nous supposons qu'il lui succédera un jour, car c'est un travailleur. Ce que j'en pense, un brave garçon, un de vos admirateurs, Rita. Je l'aimerai, ne serait-ce que pour cela. Admirateur ? Oui, il dit que rien n'est plus charmant que vos regards candidement étonnés quand on raconte devant vous quelque turpitude. Rien de plus réconfortant qu'une nature assez droite pour voir de la droiture partout que cette confiance universelle dans les choses et dans les gens. Intérieurement, je réfléchissais que ce jugement méritait d'être pris avec un grain de sel. Si M. Baladier avait su, mais il ne savait pas. « Les choses, répondis-je, sur ce terrain, je ne suis pas parmi les plus heureuses et j'aurai le droit de me méfier des choses. »« C'est vrai, mais vous ne le faites pas. Vous marchez dans ce chemin un peu aride, comme s'il était semé de fleurs. »« Oh, pas si aride !» Car une fierté secrète m'interdisait toujours la plainte inutile. « Ah, vous voyez bien !» M. Baladier dit encore que, après un travail très agaçant pour une nature comme la vôtre, vous sortez de votre petit trou, fraîche comme une rose, et souriante comme si, d'un coup de baguette, vous aviez transformé votre coquille de noix en carrosse dorée. Ma nature, je trouve hardie cette prétention de la connaître. Maintenant, il est vrai que je transforme souvent les coquilles de noix. Le coup de la baguette vient de là, dis-je en touchant mon front. C'est ce que pense M. Baladier. Il croit à l'activité de votre esprit. Qui vivra, verra, ajouta Noël en me prenant le bras pour me secouer amicalement. Mon air effrayé l'amusait extraordinairement. Croyez bien que je n'épouserai jamais un chiffre ambulant, m'écriai-je. Ce chiffre ambulant vous devine, vous comprend, donc il est autre chose qu'un chiffre. Il peut s'intéresser à une jeune fille, jolie, sans songer à convoler. Et M. Dubarral, que pense-t-il de moi ? Beaucoup de bien, il aime jusqu'à votre inexpérience, ou plutôt ce qu'il appelle votre amour de l'idéal qui vous tient éloigné des réalités. Ah ah ! Pourquoi ah ah ? Oh, pour rien ! Et je détournais la conversation. Noël, avec son tact habituel, m'avait fait du bien et je la remerciai de tout mon cœur. « Je serai 100 fois plus heureuse, lui dis-je, avec la certitude complète que je plais. » Quelle force n'éveille pas la sympathie. Sans elle, l'âme ressemble au palais de la Belle au bois dormant, mais à son passage, tout s'éveille du haut en bas. En rentrant, j'étais si contente de me savoir appréciée que, si l'ampleur de ma robe l'eût permis, je me serais amusée à faire des fromages comme mademoiselle de je ne sais qui, surprise par Louis XIV dans cet exercice. M. Dubarral eût été moins indulgent, je crois, que le grand roi. Il exigeait de la tenue, il aimait la surface d'une manière étonnante. Rien ne manquait à son avis dans son appartement meublé somptueusement et guindé comme un soldat à la parade. Le grand salon, tout d'or habillé, semblait monter sur des échasses et vous regarder dédaigneusement du haut de sa grandeur dorée. Moi, les tableaux, je le trouvais affreux, et quand je le traversais, je lui rendais de grand cœur tous ses dédains. Il était beau pour le public, cela suffisait à M. Dubarral, qui aimait que chaque pièce fût rangée comme les pions d'un jeu d'échecs. Mais ce banquier changeait de nature avec sa fille, dont il acceptait, approuvait toutes les fantaisies. Jamais avec elle, deux et deux n'étaient quatre, si elle voulait que ce fût cinq. M. Dubarral, pour satisfaire les caprices d'une enfant qu'il adorait, serait allé au bout du monde. Laurette revint à la fin de décembre et reçut une foule d'amis. Nos relations, imprégnées d'amabilité, ne firent aucun progrès vers l'intimité. J'aurais voulu l'aimer, être aimée d'elle, elle était si jolie, bonne, gracieuse, mais c'était à elle de faire tous les pas, et en dépit des qualités qu'elle me reconnaissait, le souvenir de la première copiste la rendait défiante. Rien ne donne idée de la dignité dans laquelle se drapaient alors mes pensées et mes attitudes. J'en riais moi-même. Je fus convié à une grande soirée, et afin de mieux observer, je me reléguai courageusement dans un coin. Après avoir commencé par m'amuser énormément, mon esprit s'envola vers Nantes, vers les réunions composées très différemment, où mes vieux cousins étaient heureux de me voir briller. J'étais étoile alors, et maintenant, petite machine à écrire. Puis je tendais l'oreille pour entendre la mer mugir, pour écouter une eau babillante que ne troublaient jamais les fureurs de sa voisine. Elle me représentait la vie immuable dans son mouvement perpétuel, aussi indifférente, cette vie, à la pensée d'une jeune fille attristée que le nuage qui passe insouciant. Cette idée, vieille comme le monde, me semblait toute neuve et j'étais fière de ma philosophie quand M. Balladier, fort bien dans sa tenue élégante et impeccable, s'approcha de moi. « Qu'avez-vous ? » me dit-il. « Vous paraissez triste comme une pauvre petite colombe blessée. » Pas du tout, je philosophais dans mon coin. Voilà une philosophie que je voudrais bien connaître. Je l'aurais cru morose et je n'aime pas vous voir triste. Effet de votre imagination, dis-je en souriant. Vous m'attribuez donc de l'imagination, voilà qui est renversant. Je le regardais. Il avait vraiment l'air bon, pourquoi fallait-il qu'une ombre, quoique encore indécise, vînt mitiger mon excellente impression ? Et pourquoi éprouvais-je tout à coup une émotion ? Vous ne dansez pas, me dit-il. Je reste à ma place, où je suis très bien pour observer. La réponse, à double face, ne disait pas que je grillais de danser, car j'aimais beaucoup, mais beaucoup la danse, où je réussissais infiniment mieux que dans les écritures. Votre place, elle est partout. Oui, dans un sens, cependant... Il n'y a pas de cependant. « Eh bien, partons-nous, » dit-il en m'offrant son bras. « Ce soir, je m'en tiens à la philosophie. » Il se préparait à protester, mais quelqu'un lui parla et je m'esquivai. Dans ma chambre, je savourais le mot de M. Balladier, « Vous paraissez triste comme une pauvre petite colombe blessée. » N'est-il pas extraordinaire qu'un mot de sympathie suffise pour que les larmes débordent ? J'avais résisté à mes déceptions, à mon isolement, à l'ennui d'un métier stupide, car ce n'était qu'un vil, un horrible métier. Je me maintenais avec succès dans ma résolution de congédier souvent la sensitive qui inspire ou dirige mes sentiments. Et voilà que, sur une simple phrase, les digues se rompaient et je pleurais, pleurais, comme nulle fontaine n'a jamais mieux pleuré. Idiote, me disais-je, idiote, idiote! Mais on ne résiste point à certaines bourrasques, et l'idiote ne résista pas.